Bienvenue sur le podcast de Moodstep où nous parlons de savoir-être au travail. Aujourd'hui, nous allons parler de la rencontre Shabadabada entre les ressources humaines et l'agilité avec Pauline Garrick. Je suis Joanne Akelen, opératrice de Turbine à Bonheur, une machine de haute technologie humaine qui identifie les talents d'un groupe. Mais je ne suis pas là pour parler mécanique, nous allons tout de suite rejoindre Pauline. Bonjour Pauline.
Bonjour Joanna.
Bienvenue sur ce podcast. On va parler RH, je ne sais pas exactement de quoi on va parler parce que je compte rebondir un peu sur ton parcours qui m'a interpellée. Avant qu'on commence, et pour que j'ai de la matière pour rebondir justement, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire quel a été ce chemin de vie qui t'a mené jusqu'à nous ?
Eh bien, je m'appelle Pauline Garrick, j'ai 34 ans, j'habite en région, j'habite à Paris. Et je crois que je suis quelqu'un de passionné dans la vie et ça se traduit à travers mon parcours professionnel. Alors j'ai d'abord commencé à travailler pendant 5 ans en zone urbaine sensible parce que mon projet à l'époque c'était de faire de la réinsertion de jeunes adultes. Et pour ça, je voulais d'abord me confronter au terrain, parce que je pense être une femme de terrain. En tout cas, c'est comme ça que j'apprends.
Et pourquoi tu étais arrivée sur ce sujet-là ? Pourquoi les zones urbaines sensibles, quoi ? Tu y étais confrontée ?
Alors, non, pas du tout. Alors, pas du tout, c'est ça le pire. J'ai pas été confrontée. Au départ, ce sont des films. La haine ou Ma cité va craquer qui m'ont beaucoup marqué. Je suis quelqu'un de très sensible, sensible pas mal à l'art de manière générale, et du coup quand j'ai vu ces films ça m'a parlé. Et je suis quelqu'un de très timide. Alors j'ai travaillé dessus depuis le temps, mais timide au point de à cette époque j'avais du mal à décrocher le téléphone. j'ai souhaité aller me confronter directement à un public que je connaissais pas, sortir de ma zone de confort, et puis en apprendre un peu plus.
Et qu'est-ce que tu voulais amener là-bas ? Qu'est-ce que tu as voulu apporter à ces zones sensibles, toi, être sensible, justement ?
Moi, j'avais envie d'apporter tu vas y arriver en fait, te redonner de la confiance. Peut-être parce que moi j'en manquais, je manquais de confiance en moi, et c'est toujours plus simple de donner de la confiance aux autres avant de s'en donner à soi-même. J'ai beaucoup d'énergie et j'avais envie de transmettre ça. Donc, c'était mettre la main à la pâte. Ce qu'ils souhaitaient à l'époque, j'avais mis en place l'école ouverte. Donc, c'était ouvrir l'école pendant les vacances. Et ceux qui souhaitaient faire des cours de rattrapage, on était quelques bénévoles à le faire. Et puis, d'être aussi l'oreille. Là, c'est la tierce personne qui sortait du cadre professoral pur ou ou le cadre familial ou le cadre de potes.
Et alors, qu'est-ce que tu as trouvé là-bas ? Est-ce que tu as trouvé quelque chose et pourquoi tu as quitté cet environnement ?
Oui, j'ai trouvé des choses. Déjà, j'ai beaucoup grandi. J'ai appris sur moi la patience, notamment. J'ai appris à être plus patiente. Et à m'adapter un petit peu plus au rythme et à gérer le stress des situations qui pouvaient être parfois très, très compliquées et où il fallait réagir tout de suite et dans l'urgence. Pourquoi j'ai quitté cet environnement ? Parce qu'au bout de 5 ans, déjà j'étais fatiguée. J'étais fatiguée de ne pas voir les choses avancer, que j'ai raté deux fois mon concours pour être prof et ce qui me permettait ensuite d'arriver à faire de la réinsertion. et que je suis pas du tout scolaire en fait. Et malheureusement, pour être arrivé dans l'enseignement et passer par là, il faut passer des concours, être très scolaire, ce qui n'est pas mon cas. Et puis j'avais envie d'évoluer en termes de carrière et c'était pas, enfin, c'est pas vraiment possible dans l'éducation nationale. Du coup, il fallait que je trouve un métier qui continue à me correspondre et qui alliait l'humain et l'énergie en tout cas que je voulais y mettre. Et je suis tombée sur les ressources humaines
Par hasard.
par hasard. Donc j'ai repris mes études, j'ai fait un an en alternance pour obtenir un master, et puis j'ai choisi l'alternance pour, comme je l'ai dit, je suis quelqu'un de terrain, et c'est là, je trouve, où on apprend le plus. Donc j'ai fait un an dans un environnement call center, donc pas facile, mais c'était une belle transition du coup de passer de la zone urbaine sensible à un call center qui a un univers aussi assez stressant et où il faut réagir assez vite
Attends,
en tant
t'étais en call
qu'RH.
center, mais dans une responsabilité de RH.
Exactement. Donc, pas toujours très simple à gérer, mais j'ai beaucoup appris. Après, je suis rentrée dans un cabinet de conseil en recrutement, donc grosse usine, très commerciale. Ça ne m'a pas plu du tout. Et puis, j'ai atterri dans une société de conseil en informatique où j'ai débuté comme assistante RH. Et alors là, ça a été une vraie révolution.
C'est-à-dire.
Je suis un peu geekette dans l'âme, donc je jouais à des jeux vidéo, mais je m'étais jamais posé la question. Tout cet univers informatique, comment ça se passait, que ce soit en termes d'application, que ce soit en termes de jeu, d'organisation. Et je l'ai découvert petit à petit, en échangeant avec des architectes en système d'information, des développeurs, des coachs. Et puis, je suis restée 7 ans dans cette grande société de conseil informatique. Où j'ai appris, je suis passée par un peu tous les métiers, que ce soit admin, paye, formation, développement RH, recrutement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de recrutement. J'ai eu la chance de côtoyer les méthodes agiles. Et les méthodes agiles m'ont fait me remettre en question sur mon fonctionnement et la manière dont j'appréhendais le métier des ressources humaines.
Juste pour essayer de comprendre cette partie-là, comment les méthodes agiles peuvent te faire te remettre en question? C'est quoi le noyau de ça en fait?
Un noyau de ça, c'est que lorsque j'ai eu deux managers qui étaient issus du terrain, donc qui géraient des business units, la première fois, ils m'ont dit, bon, Pauline, on va faire un O3. Un quoi? Un O3, qu'est-ce donc? Donc, c'était un one-on-one et c'était 30 minutes où j'échangeais avec mon manager sur vraiment le comment ça va. Pas t'en es où, pas ce que t'as fait, pas c'était pas un point opérationnel, c'était comment tu vas, comment tu te sens.
Pendant 30 minutes.
Alors, ça c'est le. Non, 30 minutes qui se découpent, 10 minutes où le manager en fait a la parole. 10 minutes où le manager peut faire passer aussi des messages s'il en a à faire passer. Et 10 minutes pour conclure. Alors, ça peut être de l'opérationnel ou ça peut être sur un point d'accord ou peu importe. Après, si le manager a envie de parler de plus de 10 minutes, on le laisse parler plus de 10 minutes. C'est que c'est important. Et c'est vraiment 30 minutes où chacun, le manager est vraiment là pour l'autre.
C'est quoi l'objectif final?
L'objectif au final, moi, je me suis sentie écoutée à ce moment-là. Ça m'a permis aussi de sortir un peu la tête de l'eau. Ces 30 minutes où tu prends un petit peu de hauteur en disant, OK, comment je vais? Sur quoi je bloque? Est-ce que j'ai des questions? Comment je peux avancer là? Est-ce que, y a des fiertés que j'ai envie de partager peut-être aussi? Cette semaine, j'ai fait le recrutement du développeur J2E que tu m'avais demandé, par exemple. Waouh, trop cool, j'ai réussi. Ouais, c'est un moment de partage. C'est un moment de partage et qui sort un peu de la tête du guidon. Donc ça, c'était un point, mais c'était aussi procéder par itération et découper mes tâches, le droit à apprendre le droit à l'erreur, redonner du sens dans ce que je fais, réinsérer de la communication dans l'équipe. Il y a beaucoup d'organisations où l'équipe RH est silotée, parce qu'on silote les métiers.
Donc
Et
justement, ce que tu disais, paye,
paye,
recrutement.
formation. Et on oublie parfois de communiquer parce qu'on reste sur sa zone en fait. Sauf que solliciter l'œil externe, c'est partager ses idées, etc. C'est là qu'il y a les plus grands changements des fois qui interviennent.
C'était une SS2I, la société dont tu parles.
Ouais, c'est une SS2I.
En quoi c'est moins siloté? C'est-à-dire que là, tu nous as donné, par exemple, comment t'appelles ça, le nœud 3?
L'O3, le one on one.
O3, au cube, tu
O
veux
cube,
dire.
ouais.
Ah, O au cube.
O cube.
Donc ça veut dire que cette SS2I qui utilisait les méthodes agiles les a appliquées à sa propre structure. En quoi ça a des silotes? C'est-à-dire ce que tu nous as donné comme exemple, tu le fais avec ton manager. Comment ils ont réussi à sortir des silos?
Alors, par exemple, en mettant en place un Kanban. Donc un Kanban, c'est un grand tableau qui va être au mur, donc c'est du management visuel. Et tu vas, alors je vais prendre l'exemple à te décrire qui va être le plus simple, c'est un Kanban recrutement. Donc dans une colonne, je vais mettre tous mes besoins et je vais les quantifier. Par exemple, il me faut une responsable formation, il me faut deux développeurs, il me faut trois coachs agiles, etc., etc. OK? Les besoins qui ont été définis au préalable avec les managers. Et puis, dans les autres colonnes, je vais mettre mon process. Donc, première colonne, entretien RH. Deuxième colonne, entretien technique ou opérationnel. Troisième colonne, entretien avec un manager. Quatrième colonne, proposition et cinquième colonne, OK, et sixième colonne, la colonne où c'est un no-go, par exemple. Et puis, un post-it va correspondre à un candidat. Et ça va me permettre visuellement déjà d'avoir tout et de me décharger un peu la tête, parce que visuellement, j'ai tout au mur et je peux le regarder quand je veux, faire avancer mes post-it en même temps que mes candidats. Je vais rassurer mon client interne, à savoir là en l'occurrence les managers qui avaient des besoins. Et je vais faire un rituel d'équipe une fois par semaine. L'équipe va se réunir autour de ce Kanban, de ce grand tableau, et me dire bah voilà, machin. Il a dit oui à notre proposition, c'est génial. Il arrive le 4 juin, top. Là, tu vas me dire, bah oui, mais ça concerne que l'équipe recrutement, tout ça. Mais non, parce que la paye va être impactée, la formation va être impactée, la personne, s'il y a une personne qui gère l'onboarding, va être impactée également.
Donc ils sont à cette réunion, à ce
Et
rituel.
donc, voilà, ça permet d'avoir un rituel où tu as une équipe qui est soudée, qui avance, soudée, pardon, qui avance pour un but. Une vision commune. Et tu redonnes du sens, en fait, à tes tâches. Tu redonnes de la communication et tu redonnes du sens.
Et donc, tu as passé 7 ans, c'est ça,
Ouais.
dans cette SS2I. Pourquoi tu l'as quitté et pour aller faire quoi?
Je l'ai quitté parce que 7 ans, c'est déjà pas mal. Que je suis arrivée, on était 132, je suis repartie à 350 ou 380, enfin proche de 400 en tout cas. J'avais des envies d'ailleurs, et puis surtout, je pense que j'arrivais pas à l'exprimer complètement, j'avais envie de monter une offre. Plus j'échangeais avec des collègues RH, plus je me disais que j'étais dans un environnement atypique et que j'exerçais mon métier de manière atypique. Et j'avais envie de communiquer ça. De communiquer, c'est, pour moi, ce sont des bonnes pratiques. De redonner du sens de la communication et faire en sorte que les RH de manière générale ne sont pas très bien vus, n'ont pas une très bonne pub. Quand tu dis « oui, je travaille dans les RH », tu as rarement un grand sourire. parce qu'on est vu comme celle qui recrute et qui licencie uniquement. Et j'avais envie de faire passer les organisations RH d'un verbe d'état à un verbe d'action. Je t'ai dit que j'étais je pense être une femme de terrain et j'avais envie de remettre les organisations RH au centre, au cœur de la prise de décision en fait dans les entreprises.
Quelle décision ? Tu parles de stratégie, tu parles... Parce que les RH prennent déjà aujourd'hui des décisions.
Bah, de ce que j'observe, pas tout le temps.
Pas tant que ça,
en fait. Pas tant que ça. Ouais. Elles vont aussi beaucoup suivre la stratégie qu'on leur donne, en fait.
Alors, quel rôle tu penses qu'elles ont à jouer, les RH ?
Elles ont à jouer un rôle d'être garante déjà des valeurs, de définir et d'être garante des valeurs de l'entreprise. Elles sont garantes aussi de l'accompagnement de leurs collaborateurs. Ce sont des organisations qui sont là aussi pour accompagner, développer le potentiel. Et si ce n'est pas dans cette structure-là, mais ce n'est pas grave. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision. C'est-à-dire que je pense qu'une structure n'est pas toujours faite pour tout le monde. Et heureusement, sinon on bosserait tous dans la même boîte et est-ce qu'on aurait encore beaucoup de choses à s'apporter ? Je ne sais pas. Je ne sais pas répondre
oui,
à cette
question. Je lisais ça cet après-midi. Ils ont fait des recherches, ils disaient que chez Google, c'est les... Alors, je l'ai lu en anglais, donc j'aurais du mal à utiliser les bons mots, mais les patterns, à identifier les patterns dans l'histoire, dans les relations humaines. Et ce qui va vraiment déterminer le succès d'une équipe, c'est pas tant qu'on n'ait que des cadors, c'est qu'il y a un fit entre les forces ou les manières de fonctionner des individus et leur environnement. Donc en fait, je pense que les ressources humaines ont un rôle important à jouer là-dedans, qui est une part du succès de l'entreprise et du groupe.
Exactement. Parce qu'on parle beaucoup de fidélisation, mais la fidélisation, c'est pas... On le lit hein, de plus en plus, hein, mais c'est pas qu'une question de salaire, c'est pas qu'une question... Enfin, c'est tout un environnement, c'est les possibilités aussi qu'on accorde, je pense, aux collaborateurs à s'épanouir, à créer, à... Ou simplement, enfin, je pense aussi qu'il faut savoir reconnaître et écouter un collaborateur qui dit « moi, je suis bien là en ce moment, j'ai besoin d'être dans ma zone de confort et je n'ai pas forcément envie d'évoluer. » Eh bien, c'est OK. Et je pense qu'il faut respecter ce rythme-là aussi. On est dans un environnement, un monde qui est hyper changeant, hyper complexe. J'ai souvent la sensation que les organisations RH ont pas encore, commencent à mettre un pied dedans, mais ont un petit peu de retard sur ce mouvement et ce changement. Et il faut les accompagner. Et c'est en passant du coup des entretiens que j'ai réussi à mettre des mots sur cette envie profonde de relier les méthodes agiles. Aux organisations RH et c'est loin d'être antinomique et c'est comme ça que j'ai rencontré du coup deux coachs agiles qui travaillent dans ma société actuelle qui travaillent chez Binext et quand je leur ai parlé de ce projet qu'on était assez emballés et du coup on a monté Wake Up RH et Wake Up RH c'est vraiment ça le but, c'est de faire se rejoindre ces méthodes agiles dans le métier des ressources humaines. et le juridique et l'administratif ou la paye ou les contraintes légales et sociales sont souvent vécues comme des épées Damoclès qui empêchent de faire autrement. Et moi, j'essaye de montrer qu'on peut être complètement en phase avec la loi et les contraintes légales et sociales, mais faire autrement quand même.
Donc tu es un intrapreneur
Oui.
au sein de Binext.
Ouais. Sur une offre.
Tu as une double fonction. Donc tu es RH pour Binext et j'ai envie de dire chef de projet pour Wake Up RH. Comment ça s'articule?
Alors, ouais, j'ai double casquette. Aujourd'hui, je suis donc DRH chez Binext, où donc j'ai une équipe et du coup, je mentore cette équipe. J'essaye de transmettre au mieux et de
Qu'est-ce qu'ils font
répondre à leurs
Binext
questions.
aujourd'hui?
Et je fais du conseil, du service.
Du conseil en quoi?
Du conseil alors en organisation et sur tout ce qui est product owner et product manager, donc le produit, et du développement informatique.
Oui, donc ils sont pas du tout axés aux ressources humaines.
Non, pas du tout. Mais il y a dans les valeurs, il y a enfin, si tu veux, le why, l'essence, le pourquoi Binext est créé, la tagline, c'est Be Your Potential. Donc ça veut dire qu'on va développer, aider les organisations à donner le meilleur d'eux-mêmes et à développer leur potentiel. Mais avant de faire ça, il faut déjà développer le potentiel des salariés, des Binexters. Et ouais, on les appelle des Binexters. Et du coup, on s'appuie sur quatre valeurs qui sont nos quatre piliers, qui sont l'humilité, la recherche d'excellence, le no bullshit et le fun. Et on va faire en sorte que cet environnement développe les potentiels et pouvoir raconter des belles histoires. Et je pense que je suis une des preuves chez Binex, c'est que j'ai un parcours assez particulier. Je suis venue en leur disant j'ai envie de monter cette offre, je pense qu'on peut faire quelque chose, ça n'existe pas forcément sur le marché, en tout cas pas comme on veut la faire, parce que en plus de méthode agile, on mêle aussi pas mal la gamification, donc le jeu, l'expérience ludique. Entourée de deux coachs agiles, j'avais jamais fait enfin, je suis pas biz dev de base, je suis pas commerciale, j'ai jamais monté d'offres, je suis experte RH, mais j'avais pas sur mon CV, j'avais pas toutes ces compétences. Et par des discussions, par des échanges, ouais, ils m'ont fait confiance et pour le coup, Be Your Potential, là pour moi, prend tout son sens. Et Wake Up RH, ça a cette volonté-là, c'est d'aider ces organisations RH à développer leur potentiel, à s'adapter à ce monde changeant et complexe et à redonner du sens.
Pour que ça fonctionne, cette transformation, est-ce qu'il faut déjà être à une certaine étape de son développement ou de sa vision RH? Quelles entreprises vont être réceptives à ce type d'approche, où est-ce qu'on a certaines assurances que ça va prendre?
Moi, je dirais que ça peut prendre partout. C'est juste une question de temps et une question de se poser la question, est-ce que je crée de la valeur? Et les aider à créer de la valeur. Et on n'est pas obligé d'être agile partout. Ça va être donc avec Pablo Pernos, un coach agile avec qui je travaille sur Wake Up RH, on a mis en place une méthode qui s'appelle HR Fluency et qui est issue de la méthode Agile Fluency. Et en fait, c'est de donner un cadre assez souple, donc peu importe que ce soit une start-up, une PME ou un groupe du CAC 40, c'est de définir ensemble les tâches qu'on fait au quotidien, de se poser la question, OK, dans quel lieu je suis pour chaque tâche? Alors, on a défini quatre lieux. Un premier lieu où il n'y a pas d'identité. Quand je dis il n'y a pas d'identité, pas d'ADN de l'entreprise, si tu veux pas de culture en particulier. Un deuxième lieu où tu vas avoir une identité qui est connue. Un troisième lieu où l'identité est connue et partagée, donc interne-externe. Et le quatrième lieu, c'est vraiment où ton identité, ta marque personnelle, toi en tant que Johanna, et la marque pour laquelle, admettons, tu travailles pour Binex demain, la marque Binex et toi, ta marque personnelle, Johanna, il n'y a plus de différence. Peu importe que je fasse appel à Johanna ou à Binex parce que Johanna y travaille, on s'en fiche en fait. Ça dépasse tout ça.
Parce qu'on est aligné.
On est à...
L'individu est aligné avec la société.
Exactement. Et on va au-delà du, enfin, c'est au-delà de l'identité connue et partagée, c'est un tout en fait.
D'accord.
Donc ça, et du coup, une fois qu'on a défini ces tâches, et bien on essaye de positionner donc ces tâches dans des lieux et surtout de se poser la question, est-ce que cette tâche, elle est non acquise, en cours d'acquisition? Est-ce que c'est acquis? Et comment je définis que c'est acquis, comment je mesure et quels bénéfices j'en tire. Aujourd'hui, peut-être que je peux aller dans une entreprise qui a une paye externalisée. Donc là, on est dans une identité qui n'est pas connue. On s'en fiche si la paye est bien faite en temps et en heure et qu'elle répond aux questions, qu'il y a quelqu'un pour répondre aux questions du salarié, par exemple. Et c'est pas une... enfin, est-ce qu'il y a vraiment une création de valeur à ce que j'ai une paye avec je sais pas, un marketing particulier de la société, avec un événement ou peu importe, avec une identité connue? Ben, je suis pas sûre. Ça, on s'en
Donc tu
fiche un petit
cherches
peu.
dans la société les endroits où il y a de la création de valeur véritable qui est inhérente à ce qu'est la société elle-même, c'est ça?
Ouais. Et c'est ça. Et du coup, je vais leur poser la question. Je pose beaucoup de questions. Où est-ce que vous voulez aller? Et on peut dire qu'on est dans plusieurs lieux différents suivant les tâches. Et ça, c'est pas grave. Mais comment on fait pour créer de la valeur?
Comment tu fais, parce que, alors, je reviens un peu à ma question de tout à l'heure, c'est que quand tu es dans un service RH, je vois bien comment ça peut se faire dans une petite structure. Mais si on est dans une très grosse structure, une très grosse entreprise,
Ouais.
c'est stratégique ce dont tu parles, c'est-à-dire que c'est une démarche qui demande une implication globale. Ça ne peut pas partir juste d'une personne qui se dit, ah bah, je vais implémenter ces techniques qui sont inspirées de l'agilité. Ça demande une décision. Stratégique, quoi.
Ça demande une décision et c'est aussi du test and learn. On a eu le cas d'une personne qui était dans une structure de 400 personnes et qui est venue dans un meet-up où j'expliquais qu'on pouvait recruter autrement et avoir des supports d'échange ludiques tant qu'ils étaient pratiqués avec bienveillance et qui a eu envie de le tester et qui l'a testé petit à petit.
D'accord.
D'abord toute seule, puis après elle a commencé à voir que ça a pris, donc elle en a parlé à un et deux managers en étant hyper factuelle et elle les a fait binômer avec elle. Et petit à petit ça a pris. Donc ça c'est un exemple. Mais...
Oui, il y a deux approches. Alors, il y a une approche par petits pas et il y a une approche qui peut être stratégique où on prend une décision pour le service entier et là où on va faire... Parce que tu te rapproches de la qualité d'une certaine manière en allant observer ce que font les gens, comment ils le font, pour identifier où est la valeur et mettre en place des nouvelles manières de travailler ensemble aussi.
Oui.
C'est ça que tu...
Oui, des nouvelles manières de travailler ensemble et vraiment cette création de valeur et de redonner du sens aux tâches
Et
faites.
au-delà de nouvelles manières de travailler ensemble, est-ce que tu as une vision stratégique des RH dans le sens où est-ce que tu as une vision de ce que pourraient être les RH en relation avec les autres services pour prendre une place parce que c'est quoi moi dans la description que tu as faite tout à l'heure sur les valeurs de l'entreprise, je suis persuadée que c'est à la base de pourquoi une entreprise va réussir ou échouer.
Ouais.
Donc, si on en prend, si on prend ta vision, je me dis qu'il est très important que les ressources humaines prennent à bras le corps tous ces
Tous ces
pour le
sujets,
ouais tous ces sujets pour la réussite des entreprises. Donc, donc, il y a toutes ces techniques, mais est-ce que tu as une vision aussi plus globale vers où les RH devraient aller?
Bah, la vision globale, c'est de vraiment réinventer un peu ce métier et sortir un peu des carcans et de cette vision juste recruter, licencier qui est souvent assez étroite d'esprit et hyper réductrice par rapport à ce que fait cette organisation. Mais il faut aussi que ces organisations, il faut aussi les aider à prendre le train en marche. Quand on observe ce qui se passe dans une organisation IT et que derrière, bah, l'organisation RH qui est un peu en recul de toutes ces méthodes et un peu moins innovante, bah, leur redonner aussi de la crédibilité, de la légitimité pour exercer leur fonction.
Mais il n'y a pas de redéfinition de la fonction, c'est plus ça ma question.
Je trouve que le métier évolue. Je trouve que le métier évolue et on le voit notamment avec le changement de nom. Je continue à employer RH parce que ça parle à un grand nombre d'acteurs, mais sur les générations qui arrivent, le mot RH est hyper... hyper... je vais employer un mot un peu dur, mais nocif. Moi, j'ai échangé avec pas mal de recruteuses ou de personnes en charge du développement RH et beaucoup m'expliquent qu'elles n'aiment pas trop avoir le mot RH dans leur nom et du coup, on entend maintenant parler énormément de talent acquisition ou d'autres noms. Peut-être que ce mot va être amené à disparaître et en même temps avoir une nouvelle définition de ce qu'est ou ce que doit être un RH et accentuer plus le côté être garant des valeurs, de porter une culture. Et porter une culture, bah, c'est aussi porter et accompagner les salariés de cette structure. Et quand je dis porter et accompagner, que ce soit en interne comme en externe, et j'insiste beaucoup là-dessus, pour moi, la gestion d'un départ est hyper importante. Dans mes entretiens de recrutement, ça m'arrive. Donc, je fais des feedbacks systématiquement à chaque fin d'entretien, que ce soit positif ou juste dire bah non, on n'avancera pas avec vous, mais pour telle ou telle raison. Et dès que je le peux, j'oriente la personne sur des structures où elle pourrait s'épanouir. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui elle correspond pas à ma structure que c'est quelqu'un qui n'est pas compétent.
Selon toi, aujourd'hui, avec les organisations que tu rencontres, quels sont les freins les plus importants à faire ce pas et à aller vers ces techniques?
La tête dans le guidon. Non, vraiment, c'est la plupart du temps, le discours que j'entends, c'est oui, mais les objectifs sont tellement importants qu'on n'a pas le temps de se poser ou de faire un atelier ou de réfléchir. Alors qu'en fait, parfois prendre ce temps-là et même reculer d'un pas, peut-être que c'est pour mieux, alors pas rebondir, mais aller plus loin en fait dans la réflexion et se transformer. Et il y a une peur, une crainte de oui, mais j'ai des objectifs et là, c'est une réflexion qui est souvent à court, moyen terme. Alors que nous, on arrive avec une réflexion plus long terme et où ça met un peu plus de temps, mais qui est nécessaire à cette transformation.
Tu as dit plusieurs fois pendant cet entretien qu'on était en retard. Par rapport à qui? Par rapport à quoi?
Par rapport notamment à l'organisation IT.
D'accord. Donc c'est une question de secteur, pas de pays ou de... C'est plutôt...
Alors après, par rapport au pays, J'ai une mauvaise vision, mais si je prends la gamification, où ça fait 4-5 ans que ça commence à apparaître en France avec des plateformes comme Office Vibes et autres pour impliquer les salariés de manière ludique dans les entreprises, sur des tâches, sur le mood meter, etc. Au Canada, ça fait vraiment, enfin, plusieurs années que c'est déjà en cours, quoi. Alors, au Canada, ils ont côté RH, ils ont des pratiques assez innovantes.
Et d'ailleurs, j'en profite pour passer un appel, parce que
Oui.
je cherche des coachs, des consultants canadiens avec qui je pourrais avoir ce genre d'entretien.
Ah,
Donc,
François Beauregard qui est au Canada, je crois, chez Pixis.
eh bien, je vais regarder.
Ouais.
Merci beaucoup. Ouais, est-ce que tes sources d'inspiration, en tout cas ce qui alimente ta pratique, c'est essentiellement les méthodes agiles, ou est-ce que tu as d'autres sources?
Je m'inspire d'autres courants, que ce soit coaching, PNL, approche systémique, analyse transactionnelle, voilà, qui pour moi sont liés. Quand tu coaches une organisation, tu coaches aussi et avant tout des individus. Et donc, je suis très tournée sur le coaching individuel.
D'accord. Je te propose de passer au questionnaire qui est commun à toutes les interviews. Avec la première question, est-ce que dans ta vie, tu as eu quelque chose qui peut être vu comme un échec et qui t'a particulièrement fait avancer ou appris?
Ouais, de rater mes deux fois mon concours de prof. Parce que sinon, je serais pas là dans les ressources humaines aujourd'hui et j'aurais pas monté Wake Up RH. J'aurais pas eu ces rencontres
Oui, mais
fabuleuses.
alors je te dirais, prenons l'inverse et imaginons que tu aies eu ton concours de prof. En quoi ça aurait pas été positif que tu aies ton concours de prof?
Ah ben, est-ce que quelqu'un aurait monté Wake Up RH? Je sais pas.
Ah, c'est joli ce que tu viens de dire. Ça veut dire que, est-ce que quelqu'un aurait monté Wake Up RH? C'est ça que tu viens de
Ouais.
dire. Ça veut dire que pour toi, dans Wake Up RH, il y a quelque chose qui a encore plus de sens que si tu avais été prof dans les zones sensibles.
Ouais. Je fais pas. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'anime et oui, je m'éclate et je m'amuse à faire ça, mais je le fais pas que je le fais pas que pour moi. Je pense que c'est un vrai intérêt et si j'avais continué en tant que prof et que j'avais apporté autre chose, ouais, j'espère sincèrement qu'il y ait quelqu'un qui aurait fait Wake Up RH. Et comme ça, j'aurais pu aller au meet-up et m'instruire.
Faudra que tu nous en dises plus sur ce meet-up à la fin, comment on peut le trouver. Deuxième question, est-ce qu'il y a une technique, un outil, alors on l'a effleuré tout à l'heure, est-ce qu'il y a une technique ou un outil qui t'a particulièrement fait avancer en dehors de l'agilité?
Le coaching individuel, prendre du temps, le coaching individuel, prendre du temps avec une personne pour l'accompagner en fait et mener à bien son projet de vie. Et être juste la petite lumière qui l'éclaire dans la caverne et qui est la boussole, Ouais, la boussole. La boussole parce que ça lui appartient et ses choix lui appartiennent. Moi, je suis juste là pour les faire s'exprimer et ressortir et essayer de le guider au mieux pour aller et le guider vers ses envies. Je suis pas.
C'est la première fois que je ressens autant dans cette question que tu exprimes plus une force qu'un outil. Et en même temps, on choisit nos outils en fonction de nos forces. Mais en fait, tu exprimes plus là où ton mode opératoire s'enclenche et où tu es dans ton excellence. Donc, c'est marrant.
C'est mon intuition en fait. Alors, je l'ai dit, je suis pas scolaire et j'apprends les outils et je continue à apprendre des outils et à me former parce que c'est nécessaire et c'est aussi comme ça que je perfectionne mes techniques. Mais avant tout, ce qui fait ma force, et tu l'as hyper bien ressenti, c'est que j'ai une très forte intuition et une très forte sensibilité. Et c'est là où je suis bonne dans mon métier.
D'accord. Troisième question, quelle est selon toi la qualité primordiale à développer pour être un bon manager?
Ah, l'écoute. L'écoute, être une grande oreille.
Oui, mais alors toi, dans ton écoute, c'est une écoute connectée
C'est
à ton intuition quand
une
même.
écoute active. C'est une écoute active. Il y a trois types d'écoute et c'est vraiment l'écoute active.
Est-ce qu'il y a un livre que tu pourrais nous conseiller à la lecture?
Ah, j'en ai deux. Je fais comment pour choisir?
Oh là, l'enthousiasme! T'aimes bien lire quand même, puisque tu disais que t'es
J'adore.
pas scolaire, mais tu aimes lire.
J'adore ça.
Alors, quels sont tes deux livres?
Deux ou trois. Je
Oh
suis gourmande. Non, mais j'ai un petit bonus. Alors,
là là. Que tu t'es
je me
auto-attribué quand
suis
même.
auto-attribuée.
Attention, hein.
Alors,
Non mais j'ai aucune autorité, c'est
terrible.
horrible.
Le premier, il va être lié à mon métier, ça va être Management 3.0 de Jürgen Appello,
Ah oui.
qui donne énormément de techniques et d'outils avec du sens, de la communication. Enfin, je trouve ça génial. J'ai adoré ce livre. Le deuxième, ça va être Change Your Question, Change Your Life. C'est un petit livre qui se lit très très facilement et qui explique que on a des questions de soit en mode judger, soit learner, donc soit juge où on va juger, soit en mode apprenant, et que en fait là où on est le meilleur et on va pouvoir développer tout son potentiel et le potentiel surtout d'une équipe, c'est quand on va poser des questions en mode apprenant et qui vont être beaucoup sur le comment ou le qu'est-ce que. Et donc, apprendre à reformuler ces questions.
Elle ressemble à quoi les questions jugeantes?
Tu vas être dans beaucoup dans pourquoi il a fait ça, alors que tu peux dire qu'est-ce que je peux tirer de ce qui arrive en fait.
D'accord. Et le troisième, hein, puisque tu t'es...
Monsieur, ouais, désolé. Il y a un livre que j'ai adoré plus jeune qui s'appelle Le Baron Perché d'Italo Calvino et qui est un livre assez magique sur un enfant qui par une dispute autour de la table avec ses parents tout à fait banale, décide d'aller vivre, enfin d'aller se réfugier dans un arbre et il va jamais redescendre. Et j'adore ce livre parce que il y a un côté encore enfantin, merveilleux, d'envie, de besoin. Et je trouve ça beau en fait.
C'est poétique.
Ouais.
Merci beaucoup. On va finir avec une citation.
Je suis une grosse fan d'Alice au Pays des Merveilles. Et à un moment, le chat dit que chaque aventure nécessite un premier pas.
Joli. Très joli. Merci beaucoup, Pauline.
Merci.
Est-ce que on peut juste, est-ce que tu peux, tu nous as parlé d'un meet-up. Il existe toujours ce meet-up?
Alors oui, il est une fois par mois. Donc sur l'application Meetup, il faut chercher Wake Up RH et donc j'organise une fois par mois un Meetup sur une thématique liée à l'activité Wake Up RH. La dernière fois, c'était sur la motivation. Là, ce mois-ci, on reprend les bases de l'agilité pour les RH. Qui souhaitent se mettre un pied dedans. La particularité de ces meet-up, on fait en sorte que tous les membres puissent jouer ou participer aux ateliers, parce que le théorique, c'est bien, mais quand tu pratiques, c'est mieux.
Et puis, t'es pas scolaire, tu l'as dit,
Voilà,
donc faut que ça bouge. Et t'es dans l'action.
c'est dans
Allez, hop.
l'action, et comme ça, on ancre.
Ok. Je mettrai aussi donc le lien vers le site de Wake Up Eroche ou de Binex en tout cas, puisque je suppose que c'est.
Alors non, c'est pas les. Enfin, oui, c'est supporté par Vinex, mais c'est le lien de Wake Up RH qui est un site à part.
Ok, super. Donc je mettrai un lien vers Wake Up Eroche. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? De quoi tu as envie maintenant? Vers quoi tu vas?
Ah, j'ai envie d'évangéliser, ouais, transformer un maximum d'organisations RH, d'aller vers du. Vraiment de les aider à passer de ce verbe d'état à ce verbe d'action. C'est en cours, c'est en bonne voie. Et oui, j'ai envie de transformer tout ça, de mettre ma pierre à l'édifice.
Mais en tout cas, ça sent que tu portes ça au-delà d'un boulot. C'est assez évident. En tout cas, pour moi, ça l'est. Donc, je te souhaite vraiment de t'épanouir. Et puis, j'espère que bah, y a plein d'organisations qui vont faire appel à toi ou en tout cas vont aller sur cette voie-là, même si c'est pas avec toi. Parce que bah, ça donne envie, hein.
Ah,
En
bah
tout cas,
cool.
moi, ça me donne envie. Bon, je suis indépendante, mais quand même. Parce que je pense qu'on est un peu dans la même lignée, on va vers les mêmes choses. Donc, allons-y gaiement. Merci beaucoup pour ton temps et puis merci d'avoir partagé autant avec nous.
Merci, Johanna.
Aïe, un nouvel épisode en boîte. Je voudrais dire un grand merci à Steve Evers. C'est grâce à lui qu'en ce moment, je rencontre le plus de gens, et notamment de femmes qui sont passionnées par leur métier. Moi, ça me met les neurones en folie. Vraiment, c'est... Merci beaucoup, Steve. On se retrouve, nous tous, dans 15 jours. Nous allons parler de co-développement pour la sortie du livre de Fabien Rodin sur le sujet. J'ai hâte.